Il y avait des portes qui claquaient.
Et des portes qui claquent, des cloches qui sonnent, des morceaux qui partent. Et voilà, c'est notre première grande causerie. On sent que ça va être un petit peu mouvementé, agité. Merci pour votre patience, chers artistes et puis chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes donc en compagnie de Nora Asval qui nous parle depuis son chez-elle, j'ai l'impression. Vous êtes chez vous, Nora ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je parle à partir de chez moi, à Creil, dans l'Oise, en France.
Eh bien, bienvenue. Et puis nous avons Bernadette Bidaud qui nous appelle depuis la Vendée, je pense. Bernadette, tu es avec nous ?
Oui, je suis chez moi, dans le Marais de Vin, je vous entends. Bonjour.
Eh bien, bienvenue à toutes les deux. On a voulu vous réunir à S'écouter sa compte pour cette causerie. Une causerie, l'occasion de parler collectage et de parler aussi de transmission, de le faire en compagnie de Nathalie et de moi-même, Karine. On a encore une petite heure ensemble pour converser. On avait déjà envie de vous présenter en quelques mots, peut-être déjà Nora.
Oui. Donc Nora, je voudrais la présenter comme une collecteuse de contes de femmes des hauts plateaux algériens et conteuse.
Et Bernadette, elle a 4 ans. Bernadette, elle s'invente des histoires. Elle voit l'arbre à papillons, le chemin des fourmis. Elle voit les pierres précieuses cachées au fond du bord du ruisseau et elle entend des paroles au fond d'une cave. Elle entend des paroles derrière une porte. Elle se fait son cinéma intérieur et puis elle raconte l'histoire. Bernadette, tu es là ?
Oui.
Ça fait 25 ans que tu œuvres dans les arts de la parole et qu'on te présente toujours aussi mal. Je suis contente que tu aies une heure pour pouvoir préciser un petit peu ton travail. Tu le feras sans doute un petit peu mieux que moi. En tout cas, tu fais partie de celles et ceux qui bâtissent aux côtés des communautés humaines et avec les communautés humaines. Ton travail est avant tout fait de rencontres, de paroles du quotidien, de légendes sans âge, d'instantanés poétiques et puis de voyages aussi. Bienvenue à toi pour cette émission.
Et moi je voudrais rajouter pour Nora qu'elle est née dans une ferme dans le sud-ouest de l'Algérie, aux portes du Sahara, que son père était pied noir et sa mère arabe, issue d'une famille de nomades transhumants, qu'elle a vécu dans ce milieu où le conte était une pratique sociale. Tous les soirs, ils écoutaient des contes, des proverbes, des devinettes. C'était la pratique de la littérature orale. Et les femmes donc de sa tribu maternelle sont toutes des poétesses, des chanteuses, des conteuses.
Maintenant que les présentations sont faites, ou presque, on va pouvoir avancer plus loin et récupérer ce petit temps qui nous a été confisqué pour parler de collectage et de transmission. C'est un peu les deux thèmes de l'émission. On a choisi de donner un temps pour chacun des deux et à travers ça, surtout, de parler de votre travail. On va laisser la première qui prend le son répondre à cette première question.
Donc... Moi, je voulais un peu voir comment les collectes se réalisent. Donc, ma question, c'est pour Nora. Et pour voir un peu, ben voilà, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça se passe concrètement, ces collectes de contes ? Est-ce qu'il y a des défis à relever ? Est-ce que vous auriez une anecdote à partager ?
Les collectes de contes, lorsque je les ai faites, c'est par intuition. J'ai très vite compris que la parole vivante des contes risquait de disparaître et je commençais à collecter, mais seulement j'ai collecté auprès des miens. Mais il a fallu quand même les préparer pendant 10 ans parce que lorsque j'allais collecter, on me disait « Mais que veux-tu faire de cette parole ? C'est rien du tout. Toi, tu es en France, tu as tout à la télévision. » Et moi, j'ai insisté pendant 10 ans. Et ensuite, les femmes et même les hommes ont commencé à me dire des contes. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'arrive sur les hauts plateaux, parce que je ne collecte de manière assidue que sur les hauts plateaux, là où je suis née, dans bien sûr un périmètre très large, mais j'ai préféré approfondir un terrain que je maîtrisais, que je connaissais, pour collecter d'abord les contes que tout le monde dit et puis petit à petit des contes un peu plus rares à force d'écouter les gens. Et c'est ainsi, contrairement à Bernadette, je n'ai pas beaucoup voyagé pour aller chercher des contes chez des inconnus, mais des gens quand même de la région des hauts plateaux algériens. Hein. Et il a fallu que je montre patte blanche, que je montre que je parle leur langue, que je connais leur compte, pour qu'ils me fassent confiance et enfin me confient leurs paroles. Donc c'est ainsi que je réalise des veillées. Moi, je réalise vraiment des veillées. Je vais chez les gens, je passe la nuit chez eux et je collecte presque en situation de comptage. Hein. Je provoque la veillée et ensuite on oublie mon micro, on oublie l'appareil qui enregistre. Et c'est ainsi que je collecte, voilà.
Et c'est assez intéressant que vous disiez justement que vous passez la nuit chez eux. Est-ce que c'est justement pendant la soirée que les comptes se transmettent? Est-ce qu'il y a comme ça un moment un peu plus... Oui.
Ah oui, oui, les femmes ne racontent que la nuit, une fois que le soleil est couché. Sinon, il y a des croyances qui disent... qu'elle risque de devenir chauve ou d'avoir des enfants chauves ou même de devenir sénile. Donc, elle ne raconte jamais un conte le jour, sauf si c'est un proverbe ou une anecdote. Mais sinon, on attend la nuit pour compter. Et c'est pour ça que je passe la nuit chez elle et je crée vraiment des liens familiaux. D'ailleurs, il y a des conteuses que je considère comme des tantes, comme même une que je considère même comme ma mère, et que je vois à chaque fois que je pars en Algérie. Et cette dame qui s'appelle Hajja Zahra est une véritable bibliothèque vivante. Ça fait plus de 15 ans que je la collecte et je n'ai même pas collecté, allez, on va dire le dixième de ce qu'elle sait. Hein. Voilà. Donc il faut passer la nuit, attendre que la parole naisse. Ce n'est pas du tout, j'arrive, je dis raconte-moi une histoire et elle raconte dans mon micro. Pas du tout. Il faut qu'il y ait... tout un rituel, il y a le dîner et avant de dormir. Et des fois, le conte ne se fait pas, ne se dit pas. Donc, on passe la nuit à parler d'autre chose et puis le lendemain, on recommence.
Merci, Nora. Beaucoup de choses. Bernadette Bidaude, de ton côté, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu collectes déjà? C'est quoi tes matières? Est-ce qu'on n'est que dans le conte? Est-ce que tu vas aussi vers d'autres types, d'autres types d'histoires ou de devinettes? Enfin, qu'est-ce que tu collectes, toi, de ton côté?
Alors, on va dire qu'il y a un petit cheminement dans cette histoire. J'ai commencé chez moi, en Vendée, et près de mes grands-parents et surtout des amis de mes grands-parents, il y avait beaucoup de passages à la maison. Voilà, moi, je suis aussi une fille d'agriculteur, petite fille de paysan, et donc il y avait pas mal de passages. Et dans les amis, entre autres, de mes grands-parents, il y avait des gens qui racontaient des contes, qui savaient des contes. Et ça commençait comme ça. Alors tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu me racontes? C'est quoi ton histoire de petite chèvre ou de... Voilà, ou des sept frères, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que si j'avais demandé directement « tu me racontes un conte », ça n'aurait pas marché hein, non plus, comme disait Nora, parce que le mot « conte » lui-même n'existait pas en tant que tel. C'est plus l'histoire de la petite chèvre, l'histoire des sept frères, l'histoire de... Il y a une autre manière de nommer, de dire les choses. Et donc moi, bon, voilà, j'ai pas pris conscience tout de suite de ça. C'est à l'oreille, en demandant, de bouche à oreille, et par le fait d'avoir commencé près des amis de mes grands-parents, il y avait tout de suite une oreille, une confiance, parce que j'étais la petite fille de Marie-Ange et de Marcel, donc on me connaissait. Donc, on m'a raconté. On m'a raconté des contes, légendes, façon de faire, façon de dire, formulettes, chansons, complaintes, enfin un tas de choses. Et puis de bouche à oreille, eh bien, on m'a dit aussi, tu devrais aller voir un tel ou une telle parce que tu verras, lui ou elle raconte ou chante absolument à tout un répertoire, voilà. Et donc de bouche à oreille comme ça, je suis passée de maison en maison, voilà, et j'ai entendu et découvert les histoires de manière et les contes de manière vivante avec ces gens porteurs de traditions orales. Voilà, qui ont appris eux-mêmes, soit en gardant les vaches, par une ou un plus âgé qu'eux, soit lors des veillées aussi, ou de veillées de travail. Bon, voilà, il y avait des moments précis comme ça où ça s'est transmis. Bon, voilà, j'ai entendu tout ça, j'ai collecté ça, j'ai œuvré avec des associations de culture populaire. On a enregistré, ces fonds-là sont déposés dans ces associations-là de culture populaire. Certaines histoires, certains contes ont été publiés, voilà, comme une matière sur un fonds traditionnel d'un territoire. J'ai commencé comme ça, mais j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie qui rejoignent la petite fille que je suis, dont vous parliez tout à fait au départ. C'est une attitude aussi d'écoute qui est là, c'est chez moi depuis l'enfance. Voilà. Et donc, j'ai très vite, entre ces histoires qui sont un vrai matériau de tradition, de bouche à oreille qui s'est transmise, et les histoires que j'aurais pas dû entendre et que j'entendais quand même étant petite, hein, mais qui sont qui peuvent être de l'ordre de récits de vie, de secrets de vie, ou de gens qui se confient des choses, qui parlent un peu à voix basse. Voilà. Pour moi, ça finit par faire un tout. Et j'ai vraiment eu un déclic le jour où je vais chez une des dames, une conteuse qui avait un grand répertoire de contes et qui s'est arrêtée régulièrement parce que la voisine a frappé à la porte, elle est entrée, on s'est interrompu. Ensuite, elle s'est mise à parler à son petit chien. Et puis, il y a eu plusieurs arrêts comme ça, tout en faisant qu'elle reprenne son histoire à chaque fois, là où elle s'était arrêtée, pour l'amener jusqu'au bout. Et ce qui m'intéressait, c'est à la fois ce qui s'est passé entre les histoires, c'est-à-dire cette voisine qui est venue parler de quelque chose de très important dans sa vie qu'elle devait confier, du conte qu'on était en train de raconter lui-même, et du pourquoi la conteuse chez qui j'étais s'en était souvenue dans la nuit, parce qu'il y avait eu un déclic pour elle, dans sa vie privée, qui était, voilà, qui est de l'ordre un peu du secret de vie aussi, et qu'elle a pu, dont elle a pu me parler suite à ça.
Oui.
Et du coup, c'est ce tout qui pour moi a été un déclic, voilà. Et donc ensuite, je me suis intéressée, de manière plus largement à l'invitation de d'autres territoires que le mien, sous des formes de résidence d'artistes, à la fois, ça veut dire juste qu'on passe un temps sur un territoire, enfin pour moi en tout cas, à la rencontre des gens, de manière aussi régulière, hein, c'est-à-dire que c'est pas une aventure juste, il peut y avoir des rencontres éphémères, mais moi je sollicite le fait d'y venir une semaine par mois, et ce pendant 6 mois, 8 mois, un an et demi, 2 ans. Donc il y a de vraies histoires profondes de vrais liens qui se tissent, et du coup, dans ce que j'entends, que je collecte, ou qui s'échange entre les gens dont ils, voilà, qui partagent pas forcément ça au préalable, c'est aussi bien de l'ordre de contes, peut-être, s'ils en savent, de légendes, de ce qui se raconte, de tel endroit ou de telle pratique, de tel rituel qui se pratique toujours, aussi bien que de leur récit de vie, de leur bataille aujourd'hui, de leur manière de tenir debout, de dire j'aime ça, de me faire partager le coin qu'ils aiment chez eux en me disant là c'est vraiment là que c'est c'est extraordinaire, alors que moi qui y suis vois pas forcément du tout le pourquoi, mais partager un peu de cette façon de te tenir debout ou de cette beauté pour eux, fait partie de la matière que je collecte maintenant.
Merci. Donc c'est large, quoi. Une fameuse longue réponse. Moi, je pensais que tu allais me dire non, des devinettes, des chansons, des dictons, des légendes, de la poésie.
Si c'est trop long,
on ne peut pas se faire de signes, mais en tout cas, voilà, ravissement. Mais je vois que Nathalie avait justement une question.
Oui, parce que justement, Bernadette parlait de déclic et Nora aussi, j'ai écouté donc un interview que tu as faite pour l'association Femmes Monde où tu racontais que tu avais eu un déclic à 40 ans, que avant en fait tu te considérais comme porteuse d'histoire, que tu racontais à tes enfants, à ta famille, mais que tu ne savais pas encore que tu étais conteuse et que c'était quelque chose de naturel et évident. Mais il y a eu un moment vers tes 40 ans où il y a eu ce déclic pour pouvoir transmettre. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ce déclic ou comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien à ce moment-là que le projet de collecte de toutes ces comptes de femmes a commencé?
Oui, exactement. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé que j'étais conteuse. D'abord, il a fallu que l'autre me reconnaisse comme telle. On m'a reconnue comme conteuse avant que je ne sache que j'étais conteuse. Moi, dans mon imaginaire, il faut dire que j'ai été déracinée. J'ai quitté l'Algérie, je suis venue en France et donc j'ai perdu le contact avec mes racines, le contact régulier, même si j'y allais tous les ans. Maintenant, avec le recul, je sais que j'ai toujours aimé le conte, que j'ai raconté à mes frères et sœurs quand j'étais petite, que j'ai organisé des petites veillées avec mes frères et sœurs. Ensuite, j'ai rencontré des amis qui m'ont dit « Mais à l'internat, au lycée, tu nous disais des histoires. » Donc, j'ai réalisé que j'ai toujours raconté. Quand je suis arrivée en France, j'ai raconté à mes amis, j'ai raconté à mes enfants. C'était pour moi une évidence. Et dans mon imaginaire, enfin, moi, je croyais que tout le monde racontait, que c'était un acte naturel. Et puis, là, un jour, je raconte l'anecdote… J'ai quand même le désir d'écrire les contes que j'ai en mémoire, les contes que ma mère racontait, que ma grand-mère racontait. Et mon rêve était de faire un livre et un seul livre. J'ai jamais imaginé que j'allais en écrire plus de 20, ce qui est le cas actuellement. Et pour écrire ce livre, c'est écrire les contes de ma mère. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'ai commencé à écrire et ça m'a semblé compliqué. Et j'étais infirmière d'établissement dans un lycée. J'ai fait mes études en France pour être infirmière diplômée d'État. Et même quand j'étais infirmière, j'ai utilisé, c'est très drôle, mais j'ai utilisé le conte. Souvent, je disais, quand c'était la nuit, quand je faisais des gardes de nuit, je disais des contes à certains malades pour leur faire oublier leur douleur et leur souffrance. C'était pour moi naturel. Et puis, quand j'ai voulu écrire, j'ai vu que c'était compliqué. Et tout en travaillant, j'ai repris mes études et j'ai fait des études de lettres rien que pour écrire un livre, oui. Le livre pour ma mère. Et finalement, c'est à l'université qu'un de mes professeurs m'a dit « Mais vous êtes conteuse, Madame Asseval ?» Parce que j'ai raconté, j'ai voulu animer un atelier où on passerait de l'oral à l'écrit et j'ai dit des contes dans un amphi. Et c'était la première fois que je racontais des étrangers, des gens que je ne connaissais pas du tout. C'était très impressionnant. Et à partir de là, le déclic s'est fait. Je suis allée à l'université chercher l'écrit, j'ai trouvé l'oral et je n'ai commencé à écrire que des années après, avoir conté, avoir découvert le monde du conte en France, les conteurs. C'était pour moi très étrange de découvrir qu'en France, on racontait à des gens qu'on ne connaissait pas, parce que dans la tradition, on ne raconte qu'à sa famille, qu'à des gens qui nous sont proches. Et là, j'ai vu qu'il y avait des conteurs qui racontaient en public à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et il m'a fallu m'adapter et j'ai fini par le faire moi-même. Voilà, en résumé.
Oui, bah, très beau résumé. C'est vrai que ça parle du passage de l'oral à l'écrit. On pourra y revenir en deuxième partie d'émission quand on parlera transmission. Voilà, raconter à des gens qui ne sont pas de la famille. J'ai aussi envie de dire collecter. Est-ce qu'il faut ce lien de sang? Est-ce qu'il faut ce lien de territoire pour pouvoir collecter? Parce que et Bernadette et vous parlez de cette évidence que parce qu'on est la fille d'eux, on peut le faire ou parce qu'on est. Est-ce qu'il est encore possible, dans vos cas, selon vous, de collecter lorsqu'on n'a pas ces liens-là de territoire ou d'identité?
Oui, mais à condition, je prends la parole à Bernadette, excusez-moi, mais à condition d'être présentée par quelqu'un. Les gens ne racontent pas, même si ce n'est qu'un conte, ils ne vont pas raconter facilement. Et il faut préparer le terrain, il faut rencontrer les gens, leur expliquer. Je l'ai vu dans l'interview de Bernadette. Les gens disent, mais que voulez-vous faire avec ces histoires? Elles sont, pour eux, c'est rien du tout. Et il faut leur expliquer que c'est important, que c'est une véritable histoire, qu'il faut la conserver, etc. On peut raconter en dehors de son territoire. Moi, j'ai raconté dans d'autres territoires, bien évidemment, et notamment en France, au sein des associations. Et en Algérie, quand je suis allée dans d'autres territoires, ce sont des gens qui m'ont présenté. Et j'ai raconté, j'ai montré ce que je voulais, parce que les gens n'ont pas l'impression, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Mais quand on leur dit un conte, on dit « Ah, c'est ça que tu veux ?» Et ils disent une version du conte qu'on leur a dit. Donc, on peut raconter dans notre territoire à condition d'être présenté, mais si on va comme ça avec son micro, on peut être certain qu'on n'aura jamais de conte. Je connais, je ne sais plus si c'est Mouloud Feraoun ou un autre écrivain kabyle qui a dit qu'il est resté un mois dans un village sans collecter un seul conte. Donc, c'est pas évident.
Oui, merci.
Ça s'apprend, collecter, ça s'apprend.
Oui, merci Nora. Bernadette, de ton point de vue, est-ce que c'est possible ou pas, sans ce lien, d'avoir accès à cette matière, à ces collectages?
Oui, après, tout dépend de la matière dont on parle, hein, ce que j'essayais d'expliciter. Je ne sais pas, c'était peut-être pas très clair tout à l'heure. J'ai envie de dire que ça doit être possible partout, mais que ça demande un vrai contact, une vraie présence à l'autre, une vraie écoute, un lien de confiance qui doit s'établir comme ça, peut-être pas en une fois, peut-être en plusieurs fois. Enfin, c'est ce que j'ai vu en le pratiquant un certain nombre de fois dans des milieux très différents et avec des gens porteurs de cultures très très différentes, hein. C'est possible. Il faut qu'il y ait ce déclic de confiance, de considération de l'autre pleinement. Moi j'arrive, avec aucune casquette particulière. Je suis juste, une humaine avec d'autres humains ou humaines, c'est tout. Et puis on est là ensemble, on essaye de partager parce que on a bien envie de se parler, de s'offrir ça réciproquement. Ça peut être comme dans la vie, il y a des gens à qui on parle plus facilement, à qui on se confie plus facilement. Et bien, si les gens ne veulent pas raconter, c'est pas forcément un échec ou c'est pas forcément que ça marche pas. On peut aussi parler d'autre chose. C'est souvent comme ça que la confiance se fait. C'est pas rare d'arriver, de parler du temps qu'il fait, la santé, la vie comme elle va, avec une espèce de des petits rituels comme ça, j'allais dire de prise de contact, quoi, d'arriver, de se dire un peu, c'est une façon de se dire bonjour en fait, et de se reconnaître, et vraiment reconnaître, au sens plein, quand on s'est bien reconnu, et qu'on est vraiment là, en pleine écoute de ce qui se passe, du lieu, des gens, des corps, de la lumière, comment elle est ce jour-là, de tout. C'est une vraie présence à l'instant, je pense que les gens sont extrêmement sensibles. Vraiment, je fais très confiance, moi, aux gens, peut-être naïvement, mais à ça. Je crois qu'ils perçoivent ça et que...
c'est une question d'attitude.
Arrivent, quoi, des choses se disent, se confient, arrivent. Voilà, après...
Oui, bon, on parle
de grande généralité. Chaque rencontre est une expérience, chaque rencontre est unique. Donc, on peut pas parler. Enfin, je peux pas parler de généralité, disons. Hein. Voilà.
Bernadette, je crois que Nathalie veut te poser une question.
Oui, c'est pour les deux en fait. On parle de sauvetage de patrimoine oral, mais est-ce que du coup le patrimoine oral est menacé? Est-ce que les personnes qui détiennent ces comptes, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Qu'est-ce que vous en pensez, Bernadette, pour commencer?
Alors, les gens dont je parlais tout à l'heure au départ, hein, qui étaient les amis de mes grands-parents ne sont plus de ce monde, leurs amis non plus. Hein, donc, ils sont plus là pour dire. Parfois, il y a eu des transmissions dans des familles et leurs propres enfants ou d'entourage ont reçu ces histoires et certains peuvent les porter toujours encore à l'heure qu'il est. Je crois que les histoires circulent toujours et qu'elles n'ont pas forcément besoin de nous, des professionnels, des néo-conteurs ou quoi, pour que les histoires continuent de circuler. Alors, il y a la difficulté, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont liées à des rituels ou à des moments particuliers. Si c'est rituel ou c'est, par exemple, ces veillées de travail n'ont plus lieu, c'est difficile que les contes qui étaient liés à, par exemple, une veillée de travail, où c'est quelque chose de très particulier, se prolonge, puisque l'objet lui-même de la rencontre n'est plus. Mais bon, mais je pense qu'ils peuvent se transmettre tout à fait autrement. Je pense que aussi, beaucoup d'histoires continuent, mais autrement. C'est souvent ce qu'on appelle le légendaire contemporain, c'est-à-dire que des motifs d'histoire, et même des histoires entières, circulent et prennent d'autres habits, d'autres formes, et réapparaissent au niveau de la mémoire collective, sauf que souvent on ne les voit plus parce qu'on n'a pas les clés pour se dire « Ah, c'est marrant, cette histoire ressemble étrangement à celle que m'avait racontée cette ancienne ou cet ancien et qui n'est plus de ce monde. » On dirait bien la même chose, alors que c'est un jeune au bar qui t'explique ça et qui, lui, il trouve ça super, cette histoire. Il vient de la trouver, il trouve ça génial. Et il ne sait pas qu'il est porteur, pas forcément du tout, même, de motifs extrêmement anciens qui circulent depuis fort longtemps, et qui continue avec sa version à lui. Quand on s'est intéressé, c'est là la difficulté peut-être, outre le fait que une histoire, on peut toujours être touché par elle sans aucune raison, comme ça, parce que voilà, il n'y a pas forcément de raison pour être touché par une histoire et avoir envie de la raconter à son tour. Mais quand on connaît un petit peu le fond ancien, c'est là notre chance à nous dans le boulot, et qu'on entend une version là, comme ça, dans une bouche jeune qui a ouvrir cette histoire, on peut faire le parallèle des deux et se dire « Ah tiens, la circulation continue. » Hein ?» Et dans notre travail, on peut aller rechercher dans des exemplats du Moyen-Âge ou des textes plus anciens, une version encore beaucoup plus lointaine dans le temps. Donc on a ce parcours. Moi j'ai confiance parce que des tas de motifs sont utilisés pas que par nous les conteurs, mais par plein d'autres formes. Que ce soit le cinéma, les bouquins,
la peinture,
l'art, la peinture, absolument, et que on en est bardé, hein, il y en a partout. Alors il y a aussi des raretés sûrement et des choses qui sont aussi dans le même temps en train de se perdre. Ça ne veut pas dire que tout se transmet, je le crois pas non plus. Je crois qu'il y a des choses qui demande aussi des temps de rencontre particuliers, que si ça n'a plus lieu, effectivement, il y a des choses qui vont peut-être se perdre. Oui, et tant qu'on peut collecter, en tout cas, je pense qu'il faut le faire, faut absolument le faire, et je trouve que ton travail, Nora, est admirable dans ce sens-là, du fond, tu vois, par rapport à ces récits de femmes. C'est une merveille que de continuer, pas arrêter à collecter, même si moi je porte une confiance assidue dans ce qui pourrait se développer dans le monde au-delà de ces collectages et revenir à la mémoire comme ça par d'autres biais. Mais voilà, si on peut le faire, il faut le faire. Mais j'ai confiance aussi, moi, tout à fait confiance.
C'est parfait, parce que c'est justement la question que je voulais poser à Nora, c'est que dans les collectes de contes réalisées par Nora, c'est principalement des femmes. Et du coup, j'aurais voulu avoir un peu... je me posais la question, pourquoi, j'imagine, est-ce qu'il y a, aussi des conteurs hommes en Algérie, et pourquoi ce choix? Ou est-ce qu'il n'y a pas de compteur? Peut-être je me trompe.
Oui, non, mais ce n'est pas un choix. C'est parce que c'est plus facile. Vous savez, en Algérie, le monde des femmes et des hommes au sein du foyer sont souvent séparés. Pas séparés parce que c'est comme ça, c'est la culture. Quand on a des invités, par exemple, dans une maison, les hommes mangent à part, les femmes à part. Et il y a un lien très intime qui lie les femmes. D'ailleurs, les femmes n'ont pas du tout envie d'avoir un homme avec elles. Hein. Quand je pars en Algérie, j'aime beaucoup cette intimité que nous avons entre femmes. Parce que pour une fois, on peut être nous-mêmes complètement dans ce temps-là et dans cette culture-là. Peut-être qu'on peut être nous-mêmes ailleurs aussi. Hein. Mais moi, ça me manque de rester seule avec des femmes, rester entre femmes. Et donc, on est souvent entre femmes dans les maisons, dans les foyers, dans les mariages, dans le hammam, quand on va au bain. Et on a beaucoup plus de facilité. Et ce que j'ai remarqué, et j'ai remarqué ça, mais c'est très, très fort, et ça fait des années que je teste ça, l'homme raconte aussi. Il peut raconter un conte de style merveilleux, mais l'homme et la femme n'ont pas le même répertoire. L'homme va raconter plus des contes courts, des contes de sagesse, avec des formulettes. Et la femme, elle va prendre le temps en veillée avec les enfants, porteuse de la parole dans un foyer, elle va prendre le temps de raconter le style merveilleux qui est très très long et qui demande beaucoup de temps. Et il m'est arrivé de collecter auprès d'hommes même des contes merveilleux. Je collecte beaucoup plus avec les femmes parce que l'intimité, l'éveillé, c'est la femme qui me reçoit, c'est avec elle que je crée des liens. Cela n'exclut pas du tout les hommes. Et pour la sauvegarde du patrimoine, je dirais qu'en Bernadette, que j'ai confiance. Elle a raison. J'ai confiance, le comte trouvera toujours un chemin pour survivre. Ça, c'est extraordinaire. Et souvent, j'ai entendu des jeunes du monde moderne raconter des blagues et je dis, mais c'est le comte que la vieille Khaira m'a raconté, transformé en blague, et il circule. Donc, le conte trouvera toujours plusieurs voies, aussi bien les formes courtes que les contes de style merveilleux. Ils trouveront toujours un chemin pour circuler, et les motifs aussi. En revanche, je reviens à mes collectages auprès des femmes. Quand j'ai collecté des contes merveilleux, les contes de sagesse, la poésie, les chants, tout, je collecte tout, même les récits de vie, parce que les femmes finissent toujours par raconter leur vie, qui sont extraordinaires. D'ailleurs, hier, avant-hier, enfin, ça fait 3 jours que je suis en train d'écrire 2 récits de vie de femmes qui ont participé à la guerre d'indépendance, à la révolution algérienne, et qui ont utilisé la mémoire, le conte, la poésie pour transmettre des messages secrets, pour faire de la propagande pendant la guerre d'Algérie. Et donc, ça fait 2 jours que je raconte leur vie, parce qu'il faut raconter leur vie, et pour pouvoir parler d'elle et parler de ce travail de femme révolutionnaire au sein du foyer. Hein, au sein du foyer. Et ce que je voudrais dire aussi sur les femmes, comme elles sont porteuses du verbe, c'est elles qui ont la parole et elles utilisent souvent cette parole pour protester. Ce sont de très grandes féministes, mais sauf qu'elles procèdent autrement. Elles utilisent le conte pour dire ce qu'elles ont à dire. Et c'est ainsi que je l'ai remarqué quand j'ai commencé à collecter les contes grivois, les contes libertins, où l'homme est mis vraiment à mal. Hein, à mal, mais c'est une protestation féministe à travers le conte.
Eh bien, merci Nora pour cette intervention. C'est vrai que moi je me posais la question de notre capacité à mémoriser l'oral aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'est plus exercé à retenir une histoire. Bernadette disait il y a des personnes qui racontent des histoires qu'ils n'ont pas racontées depuis 30, 40 ans. Oui. Elle est encore fraîche à leur esprit. Et nous, redire ce qu'on s'est dit la veille, je pense qu'on a plus cet exercice, cette capacité-là. Et du coup, je me demandais quels étaient aujourd'hui ces lieux de transmission. Ces lieux où on peut encore reconnaître, retenir une histoire qu'on pourra transmettre ensuite. Je te renvoie la balle.
Je peux répondre.
Oui, je vous en prie.
En Algérie, la femme raconte, et le conte se dit plusieurs fois. On raconte le même conte plusieurs fois. D'ailleurs, dans les veillées traditionnelles, la conteuse ne va jamais appeler les gens, les enfants, dire « Venez, je vais vous raconter une histoire ». Il faut qu'elle soit sollicitée, il faut qu'on la supplie presque pour dire une histoire. Et un auditoire qui réclame une histoire, forcément, va l'écouter, va se concentrer pour l'écouter. Et pour le conte, c'est souvent la répétition de l'histoire qui l'a fait mémoriser. Et puis, il y a des gens qui sont dotés d'une mémoire, du récit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de mémoire. Moi, j'ai toujours considéré que je n'avais aucune mémoire. Jusqu'au jour où une de mes amies m'a dit, mais qui est professeure d'histoire géo, qui connaît les dates, les noms. Et elle me dit, mais enfin, tu te moques de moi, tu n'as aucune mémoire, toi. Et comment fais-tu pour retenir des dizaines de contes après une seule écoute? Et moi, je n'avais pas l'impression d'avoir une mémoire. Donc, il y a la mémoire, je suppose qu'il y a la mémoire du récit. Il y a des gens qui ont la mémoire pour retenir des noms, des titres, des numéros de téléphone, des chiffres. Et puis, il y a ceux qui retiennent le récit. Moi, un récit, je l'entends une seule fois, je ne l'oublie jamais. C'est très drôle. Ouais.
Oui. Et Bernadette, comment est-ce que, par rapport à cette capacité de mémorisation, l'enfant qui écoute, voilà dont tu parles au début, c'est quoi, toi, ta vision de ce rapport-là à la mémoire ? Est-ce que ça t'a questionné à un moment ?
Oui, ça m'a questionné moi personnellement. Au départ, j'ai entendu ces gens porteurs d'histoire là, ou de contes complexes, avec plusieurs versions, plusieurs chemins possibles, et justement, qui n'avaient pas raconté ces histoires depuis des dizaines d'années. Moi j'ai vu ma difficulté à moi, en les écoutant, de retenir ce qu'ils étaient en train de me dire. Moi je me suis aperçue mémoire grâce à eux, et que donc cette façon d'être à l'écoute, d'être en écoute vraiment profondément, cette présence à l'autre et au moment, et que c'était important, ça s'apprend. Je fais confiance à ça, enfin je veux dire, quelque chose qui nous a vraiment plu, une chanson qui nous a vraiment touché, une histoire qui nous a brassé, je pense qu'on la retient, même si c'est pas le tout, peut-être dans une première, un premier jet, mais je pense que si on y retourne et qu'on la réécoute, on apprend à inscrire les passages, on a des clés après pour s'y retrouver, hein, ou des petites ruses chacun pour faire nos chemins d'histoire, là, nos chemins de parole. Hein. Dire on n'a pas de mémoire, je pense que quand on veut retenir, on retient, quoi. C'est tout. Ce qui est important, je pense qu'on le retient. Plein de gens rencontrés, hein, tout âge confondu, si c'est pas des contes, hein, réellement, mais si ils veulent témoigner de tel fait qui s'est passé, je sais pas, pendant la guerre, ou qu'un jeune témoigne de quelque chose qui s'est passé dans son enfance, ça devient tout à coup très précis, les images. Donc le diffuseur, on n'aura pas de mémoire, on ne sait plus rien. Enfin, moi, ces généralités, ça ne m'intéresse pas trop, je n'y crois pas. Je pense que peut-être parce qu'on est aussi dans un monde d'images plus présentes à cause des médias qui sont là dans le quotidien de beaucoup de gens, et aussi de l'environnement qui nous barre d'images et donc qui nous fait travailler justement un peu différemment cette forme de mémorisation par l'oral ensuite pour dire. Mais je pense que ça se travaille, oui, c'est possible ça. Enfin, je crois que moi j'ai appris, c'est eux qui m'ont fait comprendre que sur une histoire longue, j'avais pas de mémoire. C'est comme ça que j'ai appris à être dans cette attitude là d'écoute vraiment et de tenter de retenir.
Bah, du coup, je vous propose d'écouter quelque chose qui a été collecté du côté du sud de l'Italie, dans les Pouilles, dans le Salento plus précisément, une plage qui s'appelle None 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 Nana. Et c'est ainsi qu'on va transitionner du collectage aux questions de transmission. Décidément, c'est le jour où je vais être obligée de chanter. Pourquoi j'avais envie de partager ce son, c'est parce que c'est un collectage qui a été fait auprès de vieilles dames dans le sud des Pouilles, et un collectage qui est édité aujourd'hui de musique traditionnelle du Salento et qui fait entendre des voix. Moi je suis quelqu'un de radio, donc je suis très 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 touchée par les voix de ces femmes qui pratiquent en soirée, voilà. Et puis que si elles me parviennent aujourd'hui, même si elles ont été enregistrées dans les années 50, c'est parce que justement quelqu'un les a éditées, et du coup il y a eu ce passage à un moment donné, de l'oral à l'écrit ou de l'oral au support audio.
Non, 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 non. Il mio piccino è il cuore della de la mujer. El hombre duerme un pichino, pichinero. Ma va llenando con la mamá soa.
Voilà un enregistrement de Diego Carpitella et Ernesto Di Martino, ceci pour parler maintenant de transmission et de ce fameux passage de l'oral à l'écrit. Je vais passer la parole à Bernadette parce qu'on n'a pas parlé d'orature et qu'il y a quand même ce mot valise entre oralité et écriture. Toi, c'est l'orature, Bernadette.
Oui, c'est-à-dire que je... Allô ?
Je t'écoute, nous t'entendons.
Oui, je n'oppose pas du tout oralité et écriture. Je pense pour moi que c'est un tout. Il y a ce que j'entends qui passe, que je peux collecter d'oreilles simplement et de mémoire. Donc, parfois que j'ai enregistré, comme je vous ai explicité plus en avant. Quand je n'enregistre pas, parce que dans beaucoup de rencontres aussi, je n'enregistre pas. C'est juste histoire que les gens refassent circuler des paroles, des témoignages, des petits morceaux de vie, voilà, des batailles ouvrières, politiques. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Et c'est pas forcément enregistré. Mais je suis souvent moi avec des petits carnets avec moi, des petits cahiers. C'est vrai que j'ai pas. Un crayon et un papier quelque part, et donc je le dis tout de suite aux gens, si vous voyez me noter, c'est parce que voilà, j'ai peur de pas me souvenir de tout, ou de voilà, ou c'est des mots qui sont des clés pour moi, et ces mots là ou ces images là vont être clés pour que je retrouve le reste autour du récit. C'est une façon de travailler ou d'annoter, hein, voilà, et de retrouver le fil de ce qui m'a été transmis. Donc l'écriture, la trace de l'écriture commence déjà là. Et puis, par ces petites phrases ou mots à la volée ou images comme ça écrites sur le pouce. Et puis ensuite, quand je commence à bâtir un récit, tout ce qui est entendu, collecté, partagé lors de ces rencontres ne sert pas forcément dans un récit que je vais bâtir moi par après, hein. Mais il y en a une part, oui, qui est déclencheuse d'images et qui peut être vraiment fondamentale pour la structure du récit que je vais mettre en place après. Donc après, oui, il y a un passage qui est fait chez moi à la fois d'écriture, à partir de ce qui m'a été dit, et aussi, j'allais dire, de rêverie à voix haute. Je ne sais pas comment dire ça mieux, c'est-à-dire où je me raconte à haute voix, où je mets en bouche des choses qui m'ont été dites. Ça passe de l'un à l'autre sans cesse. Et j'y retourne, c'est des allers-retours incessants, jusqu'à ce que je me dise, bon, voilà, là, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, et j'y vais, je tente. Puis parfois je reviens à une trace d'écrit, puis je retourne à l'oral. Voilà, c'est fait de plein d'allers-retours. Ça, c'est pour ce qui m'amène après, moi, à porter un récit publiquement, hein, que je transmets, ou que je raconte, dont je fais une part. Ça peut prendre d'autres formes. L'écrit peut advenir quand il s'agit de redonner après une retranscription d'histoires qui ont été enregistrées, collectées, et où là, c'est comme une reprendre en note, en écriture, pour une publication d'une collecte. Et où donc il y a des choix à faire. Est-ce qu'on Nora connaît ça sans doute mieux que moi. Est-ce qu'on se transmet tel quel ce qui nous a été dit, parce qu'entre la parole, l'oralité et la parole écrite, c'est pas tout à fait au même endroit, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que comme on peut le voir dans un certain nombre de recueils de contes, il y a des gens qui ont réécrit les histoires. Voilà, d'autres qui sont restés très proches de la parole orale, d'autres qui sont dans un entre-deux, d'autres qui commentent l'histoire elle-même. Voilà, il y a des choix à faire après quand on fait ce travail au réel de transmettre des histoires telles quelles qui nous ont été transmises. Moi, il y a des histoires qui ont été enregistrées, et, celles qui ont été choisies, pas par moi personnellement, mais par plusieurs personnes d'être publiées, on les a transmises telles quelles, en gros, elles nous ont été dites. Hein, c'est-à-dire sans intervention particulière, mais juste de dire c'était près de madame, une telle, et puis le contexte, quoi, comment c'était, voilà. Mais sinon, ce que je fais, moi, après, pour mes propres récits sur scène, quoi, enfin public, c'est autre chose, quoi. C'est, là, j'ai une trace écrite de beaucoup de mes. Qui ont été publiées. Il y en a certaines qui sont enregistrées, qui sont. Ben voilà. Voilà, sous des formes orales, enregistrées, et d'autres qui sont publiées sous des formes, j'allais dire, vraiment très très proches de ce que je raconte. Il peut y avoir quelques formules qui sont revisitées, mais j'essaie de rester le plus possible près de l'oral. Enfin, comme je le dis moi, en tout cas. Comme ma parole à moi, comme se porte mon orature quand je raconte.
D'accord. Merci Bernadette Bidaud. Et Nora Asval, comment ça se passe pour vous, ce passage de l'oralité à l'écriture? On sait déjà tout le chemin qui a été fait en passant par le NIF. Comment vient le moment où vous transmettez ce que vous avez collecté?
Oui. Vous savez, ce qui est particulier en ce qui me concerne, c'est que moi, je les entends en arabe, les contes. Donc, je les entends en arabe et j'ai un passage de l'arabe, de l'arabe au français, déjà, oralement. Donc, j'entends un conte en arabe, je le collecte, je l'enregistre, ou quelquefois, si je ne suis pas en situation d'enregistrer, je le mémorise. Je le mémorise et j'ai aussi toujours un carnet et un crayon. Et il y a des passages versifiés, il y a des formules versifiées dans les contes. Et quand je mémorise un conte, les passages versifiés, eux, je les note. Je les note parce que c'est plus difficile de mémoriser un petit poème, une formulette, hein, que le récit. Alors souvent, je mémorise, je les entends en arabe, je me les raconte en français systématiquement, et ensuite, j'ai pris conscience, il m'a fallu un peu de temps quand même, que je m'adresse à un public français, francophone. Donc, je raconte mon histoire comme moi, j'aimerais l'écouter en français. Hein. Quand il y a des passages vraiment liés à la culture, il faut vraiment être de la culture pour les comprendre concernant un objet, le tissage ou le travail, le travail à la maison de la femme au sein du foyer. Je ne veux pas rentrer dans des explications. Oui, on longe le bébé comme ça parce que… Alors je vais au vif du sujet. Je raconte un public français dont j'ai pris conscience. Il fallait que mon conte s'adapte au lieu, à la langue où il se trouve et aujourd'hui et maintenant. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui et maintenant. Et je reste, j'essaye de rester le plus possible proche de l'oral, de ce que j'ai entendu. Et je ne supprime pas, par exemple, les passages très cruels, parce qu'il y a des contes merveilleux avec des passages vraiment très cruels. Je ne cherche pas à les supprimer. Je les laisse. Je me dis, le conte est dit comme ça. Mais quand je suis présente, hein, quand je suis présente, mais quand il n'y a pas la présence du conteur pour adoucir ces passages cruels, c'est différent. J'évite de raconter, par exemple, dans un magnétophone pour envoyer, alors que je ne suis pas là, des passages très cruels. Et quand je publie, j'écris en français comme moi j'aimerais les entendre en français, en essayant de rester proche de ce que j'ai entendu. Alors je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, et le travail pour transmettre. Le travail pour transmettre, moi je les écris ou alors je les répète en français plusieurs fois pour les avoir en bouche en français. Mmh. Ce qui est très étrange, c'est que quand j'entends un conte en français, je ne vais pas avoir envie de le raconter. Mais si je l'entends en arabe, je peux le raconter tout de suite après, surtout s'il m'a plu, en français. Et je me suis aperçue aussi d'une autre chose, quand on me dit un conte et que je dois vite l'enregistrer pour ne pas l'oublier, alors que je n'ai pas de magnétophone, au lieu de le raconter en arabe comme je l'ai entendu, ça je viens de le réaliser, je ne l'ai pas remarqué chez moi, parce que j'ai fait un travail de classement dernièrement, et j'ai dit pourquoi, à chaque fois qu'on t'a dit un conte en arabe et que tu n'étais pas en situation de collecter, pourquoi tu te les racontais toi-même au micro en français et pas en arabe? Oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Pas de réponse. Bernadette, est-ce que tu as l'ombre d'une réponse à ça?
J'ai pas entendu la fin. Désolée, mais...
Ah, c'est vrai qu'on était avec des petits delays. Moi, j'avais... justement, on parlait de publication. C'était peut-être l'occasion de parler de Nora Aswald, du travail de publication. Voilà, vous parliez de 20 publications déjà derrière vous.
Oui. Oui.
C'est quoi? Enfin, je dirais, est-ce que tout est publiable déjà? Est-ce que parmi tout ce qui a été collecté, vous avez dit ça, oui, ça, non, je le garde dans la bouche? C'est quoi les choix? Est-ce que c'est vous qui les avez faits? Est-ce que c'est l'éditeur qui dit ça, oui, ça, non? Comment ça se passe un petit peu de
décider? Alors, j'ai commencé par publier tout ce que j'avais moi en mémoire depuis l'enfance. Donc, les contes qui viennent de ma famille. Ça a été ça. En général, la majorité de mes publications, c'est ça. C'est ce qui m'habite depuis l'enfance. Et puis, j'ai publié des contes de femmes. J'ai trouvé un éditeur qui m'a été présenté par l'écrivaine, la romancière Leïla Sebar, et je la remercierai jamais assez, qui m'a présenté Alain Gorius des éditions Almanar. Et là, j'ai publié les contes grivois, les contes libertins, les contes de femmes. Et j'ai publié 4 volumes de ces petits contes. Et finalement, ce sont des contes que j'ai trouvé des versions au Moyen-Âge. Parce qu'après, je me suis documentée sur le sujet et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de versions. Là, il faut savoir que le conte est universel. Même en arabe, il y a le petit poussé, il y a le chaperon rouge, il y a Blanche-Neige. Tous ces contes, on les retrouve dans une autre langue. Mais en ce qui concerne les contes de femmes, les contes libertins, j'ai mis 20 ans à me décider parce que je me disais c'est une parole qui m'a été confiée dans l'intime, dans des moments intimes, loin des oreilles masculines, même si elles sont destinées aux hommes et ils finissent toujours par les entendre par un biais ou un autre. Et je ne voulais pas les publier. Et puis après réflexion et encouragée même par mon mari, il me dit « Mais écoute, publie-les parce que tu sais très bien qu'un jour ou l'autre, le conte passe du livre à l'oral. » Tu vas leur donner une vie. On disait que les contes risquent de se perdre. Mais il y a les livres qui font passer, et tous les conteurs modernes le font maintenant. Grâce à eux, les contes ne restent pas dans les livres. Ils sortent des livres et ils reprennent le chemin de l'oralité. Et j'ai publié donc ces contes. Depuis quelques années, je travaille surtout sur le sujet féminin et ces contes de l'intimité. Et actuellement, je travaille sur les contes spirituels, c'est-à-dire pas spirituels dans le sens, on va dire, coquin, mais dans le sens de la spiritualité, du religieux, mais ce n'est pas tout à fait religieux. Il y a une dimension aussi universelle. Ce ne sont pas des contes de sagesse parce qu'ils font appel à Dieu, à certaines croyances, mais ce sont des contes, on va dire, de sagesse qui ont une dimension universelle. Alors, je travaille sur ce sujet en ce moment. Et puis aussi, j'ai publié, j'ai pas publié, mais j'ai collecté toute une épopée qui a été racontée par bribes. Alors, l'un connaît un petit passage, j'ai rassemblé tous ces morceaux et j'ai écrit l'épopée hilalienne, mais autour d'une femme, donc d'une héroïne nomade qui s'appelle Jezia, et c'est 3 heures de narration. Et donc là, normalement, je devrais le publier. Il faut que je finisse de le réviser, de le corriger. Et c'est écrit, voilà.
Eh bien, et vous avez un publieur, enfin un éditeur régulier sur tout ce travail ou est-ce que vous êtes dans différentes maisons d'édition?
Écoutez, ce n'est pas toujours facile de trouver une maison d'édition. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été publiée au Sorbier. Et dans d'autres, là, chez Milan. Et là, je publie surtout chez Almanar. Voilà. J'ai été publiée dans plusieurs maisons d'édition, mais là, je reste fidèle à Almanar jusqu'au jour où il ne voudra plus me publier ou il ne pourra plus, je n'en sais rien. Voilà.
Oui. Et Bernadette Bidot, comment ça se passe? Parce que les temps qui courent, donc une série, un diptyque de spectacle que moi j'ai eu la chance de voir, je sais qu'il existe aussi en version publiée, mais il y en a d'autres. Comment ça se passe au niveau publication, édition de ton côté?
Voilà, les temps qui courent, là, ce travail s'est publié aux éditions du Pourquoi Pas. Ça s'est passé, comme je ne m'y attendais pas. Ces gens-là, des éditions du Pourquoi Pas, étaient lors de rencontres pour présenter ces représentations-là dans l'est de la France. Ils étaient dans le public et tout de suite, ils sont venus après me dire, mais alors où est-ce qu'on peut trouver la trace de ce que vous venez de raconter? J'aurais dit qu'il n'y en avait pas. Et ils m'ont dit, mais il faut absolument publier ça. Et ça s'est fait comme ça, vous voyez, les rencontres... Tant de coups de cœur ou envie comme ça d'accompagner quelqu'un un peu plus loin dans ce travail. Dans les autres récits, c'était aux éditions Traf auparavant. Il y a eu les éditions Syros aussi, les éditions Geste Édition sur voilà. Dans les CD, c'est plus l'autre label, voilà, en gros, où il y a les traces de ces différents travaux.
Oui, d'accord. Et donc, est-ce que Nora, de votre côté, il y a aussi des éditions plutôt audio, des CD, ou vous passez uniquement par l'écrit?
Je vous entends plus.
Est-ce que vous avez des enregistrements aussi de vos travaux ou de vos histoires en audio, ou est-ce que c'est uniquement par l'écrit pour vous?
Pour moi, il n'y a pas d'audio parce qu'on me l'a pas demandé. Et j'ai pas cherché parce que ça me fait un peu peur, l'audio. Si, il y a un livre, Conte d'Algérie aux éditions en Milan, qui est livre et audio en même temps. Et j'avoue que je me suis jamais écoutée parce que je n'aime pas m'écouter. Mais j'ai pas d'autres audios. Non, j'ai surtout des livres. Et j'ai édité aussi dans des associations. Hein. J'ai travaillé pour des associations. Et j'ai édité. Des ouvrages, en fait, c'est des rendus d'ateliers avec des femmes.
D'accord, ok.
Et moi, je voulais juste vous poser aussi une dernière question pour savoir un peu à toutes les deux quels étaient vos projets à venir. Maintenant, j'imagine qu'avec la période du confinement, il y a eu quelques spectacles qui ont été annulés, mais qu'est-ce qui est... dans le tuyau pour le moment, chez chacune d'entre vous deux.
Je te laisse la parole, Bernadette.
Oui, d'accord. Oui, alors, au-delà de toutes les publications, enfin, toutes les traces là, dont on vient de parler, c'est quand même le grand manque, hein, effectivement, c'est quand même de raconter en direct avec des gens, d'être là avec eux, d'être dans cette présence unique avec ce qui circule dans... enfin, à ce moment, on dit spectacle vivant, cet instant-là magique et tout ça, oui, on a... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de choses annulées. Il y avait des périodes aussi de rencontres avec ces gens dont je vous ai déjà parlé pour un autre projet, et tout est tombé à l'eau puisque c'était en plein dedans. Donc, il y a des choses qui vont être reportées, remises en place, mais c'est vrai que ça bouscule pas mal... les projets en cours pour ce qui me concerne, mais j'y travaille quand même. Et là, je suis sur la question, quel chemin, prendre pour aborder le choc de la découverte de l'art rupestre. Hein, ces traces mémoire, c'est de quelle histoire est-ce qu'elles sont nées, et notamment à partir d'une main peinte il y a des milliers d'années qui me fait signe. Je suis à la recherche de ces histoires. J'essaie de rendre compte de cette vision, de cette apparition. Qu'est-ce qu'elle me raconte, cette femme qui a posé sa main là-bas il y a des millions d'années? Elle est en lien direct avec moi au jour d'aujourd'hui. Et donc, je suis sur ces traces. Voilà. Donc, c'est à la fois un travail de récit de vie, mais aussi qui s'appuie sur des motifs mythologiques sans âge. Et donc, je suis là-dedans. J'ai commencé déjà une écriture, en tout cas en poésie, sur ça, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de poésie, mais moi, mon chemin de transmission, il se ferait pas non plus si il n'y avait pas la poésie, et qui est toujours présente dans mes récits, dans mes écritures et dans ma façon d'être au monde. Enfin, j'essaie, en tout cas. Voilà, il y a un travail commencé là-dedans. Je suis là-dedans, je suis dans cette quête en ce moment.
Eh bien, merci Bernadette pour le partage. On va bientôt arriver à la fin de cette émission.
Et Nora?
Et
Quels sont les futurs projets de Nora?
Oui, très brièvement, puisqu'on arrive à la fin, j'ai quand j'ai collecté les contes grivois des femmes, j'ai collecté aussi Sagesse des femmes. Donc, j'ai tout un répertoire que j'ai traduit, qui est écrit, qui a besoin d'être révisé pour publier aussi Sagesse des femmes du Maghreb après avoir publié Contes libertins du Maghreb. Et je suis revenue à l'enfance. Quand j'étais enfant, moi, j'étais passionnée par les histoires de fantômes. Et à chaque fois qu'un membre de ma famille venait de la campagne, parce que je suis aussi issue de la campagne, puisque je suis née dans une ferme, et à chaque fois qu'un membre de ma famille venait de la campagne, je lui disais, tonton ou tata, est-ce que tu as vu un fantôme? Est-ce que les fantômes existent? On me disait, oui, les fantômes existent, bien sûr, parce qu'on croit aux fantômes. Hein. Et j'ai dit, tu en as vu, toi? Ah non, pas moi, mais mon frère, mon cousin. Et j'ai reçu beaucoup de récits de fantômes et d'êtres... différents êtres hein, qui font peur aux enfants. Et j'ai raconté toutes ces histoires et j'aimerais bien écrire une sorte de chronique sur ces croyances à notre époque. Ça, c'est vraiment mon rêve, là.
Merci. On a encore 5 minutes hein, pour en parler. Moi, voilà, je me suis dit, on n'a pas eu d'histoire et tout d'un coup, il y a une histoire de fantôme et je me dis, mais allez, il nous reste 5 minutes et on n'a pas eu une seule histoire. Je ne sais pas si quelque chose vous vient.
Mais écoutez, je peux vous dire un petit conte rapidement de 2 minutes.
Ah oui, tout à fait, on les a.
Avec plaisir.
Ce conte m'a été raconté par ma tante qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'est pratiquement pas sortie de sa campagne, qui vit dans une fermette, m'a un jour raconté cette belle histoire d'amour. Tous les amours, les grandes histoires d'amour sont tragiques. Donc c'est l'histoire d'un sultan qui avait une fille unique et cette fille unique ne voulait pas se marier. Et ce sultan avait un vizir, un jeune vizir. Et l'histoire dit que le jeune vizir avait des yeux aussi beaux que ceux de la princesse. Et un jour, le vizir a été surpris sous le balcon de la princesse en train de lui dire un poème d'amour. Le sultan, furieux, a demandé que l'on creuse un grand trou sous la fenêtre de la princesse, qu'on y allume un feu et qu'on y précipite le vizir. Et au moment d'être précipité dans les flammes, le vizir a dit son dernier poème. « Yesh'al an-nar bil-musmar, wa ila satr rih zidha, li yibqi habibou, yitih 'alayh f'an-nar, wa ma jinna, ya'nas tridha. » Oh, toi qui allumes le feu, laisse le vent souffler sur la braise. Celui qui aime son bien-aimé doit pour lui être capable dans les flammes de se jeter, car au paradis, chacun est capable d'aimer. La princesse, en entendant ces paroles, s'est précipitée dans les flammes avec son bien-aimé. Ça s'arrête là.
Merci Nora.
Merci beaucoup.
Je me demande si Bernadette répondrait pas en poésie. Je sais qu'elle fait ça aussi très bien, mais là on est tellement pris au dépourvu.
Si je peux vous dire un petit texte, comme tu œuvres Nora près des femmes, pour beaucoup, et bien alors pour toutes ces femmes, pour toi, pour vous mesdames qui êtes là, pour toutes nos sistas de partout, et dont le collectif Sista auquel... Je participe et qui est une joie. J'avais écrit ce petit texte qui peut peut-être faire écho à ce qu'on vient de dire, qui s'appelle « Révolte et tradition », cette poésie. Je veux bien vous la dire, c'est très court.
Je t'en prie.
Nous ne comptons pas le plus clair de nos heures passées à ouvrir le coffre à merveille des traditions, à interroger le ventre secret de nos révoltes. Et pour un rien, tant de remous, de stupeur, d'effondrement, de colère, de jubilation pour rejoindre les sources, pour désembroussailler les racines et identifier les renversements. Nos mains liées et offertes, alors que reviennent les énigmes, nous refusons de ne rien comprendre quand la peur pose son caillou dans le ventre. Image moderne et primitive, entre limbe révélatrice et inquiétude, en archipel entre les silences et les mots, les oui et les non, en vase subtile et radicale, le feu Sistas nous révèle à nous-mêmes. Nous ne sommes pas vieilles, disent les traditions. Nous ne sommes pas jeunes, crient les révoltes. Mais toutes sans âge. Nous sommes mouvement, renouvellement, oscillation des mémoires, reliées par des points visibles et invisibles. Nous sommes l'ovation debout à la fin de l'histoire, en écho à la grâce de l'indicible et du grand dérangement de nos certitudes. Voilà.
Merci Bernadette Bidaude. Merci Nora Asval d'avoir participé à cette causerie. On a parlé collectage, on a parlé transmission, on a évoqué un peu vos travaux très très peu. Merci de ne pas avoir tant parlé de votre travail que parlé du reste du monde. Il y a Bernadette qui disait « L'universel, c'est le local, moins les murs.
Oui. »
J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de ponts qui vous reliaient, de murs et... d'enfance dans des fermes, à écouter aussi à travers ces gros murs épais le chemin que vous êtes frayé, vous en tant que femme, dans toutes ces histoires-là. Et merci à vous pour tout ce que vous transmettez aujourd'hui au public que nous sommes, aux lectrices que nous sommes, et puis aux artistes qui pourront vous reprendre, vous relire et faire vivre encore ces histoires. Et merci d'avoir accepté aussi le challenge de cette émission dans des conditions techniques, on le sait, super rock'n'roll. J'espère que vous aurez l'occasion d'échanger face à face un jour. J'ai vu beaucoup de sourires, en tout cas dans la voix et dans les yeux. Et j'espère être là le jour où vous vous croiserez pour croiser vos motifs et vos envies d'histoire.
Merci pour ce plaisir.
Oui.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Oui, au revoir.
À bientôt.